Et oui, vous vous en doutez, cette chronique va évidemment porter sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et notamment parce que cet événement met à nouveau en lumière l'imbrication et l'interdépendance des économies, comme l'avait fait la crise de la Covid en son temps. Ainsi, en guise de riposte et d'avertissement à Vladimir Poutine, les pays occidentaux frappent la Russie au portefeuille. Mais si ces mesures affectent effectivement la Russie, elles sont également lourdes de conséquences pour nous autres, pays occidentaux. Tout cela parce que notre monde est globalisé et qu'il n'y a pas d'action sans réaction. Alors prenons le cas du gaz. Le gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, a été gelé, pénalisant ainsi les exportations gazières de la Russie vers l'Europe et notamment vers l'Allemagne. Alors certes, l'arrêt des exportations de gaz impacte donc fortement la Russie, dont le PIB repose à 30% sur le gaz et le pétrole. Mais d'un autre côté, l'Europe est également touchée puisqu'elle importe 40% de son gaz de Russie. Surtout l'Allemagne d'ailleurs, 20% pour la France puisque nous on a le nucléaire. Les pays importateurs risquent donc d'assister à une flambée des prix du gaz et du pétrole, alors même que ceux-ci ont augmenté de 21% les 12 derniers mois. Et par effet de ricochet, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles mobilisations sociales, tant l'augmentation du prix de l'énergie touche particulièrement les foyers les moins favorisés et pose des problèmes de justice sociale. Alors, si nous dépendons du gaz russe, de nombreux pays dépendent également des exportations du blé ukrainien. Or, ces exportations risquent de diminuer largement, soit parce que l'état de guerre va empêcher les cultures normales du blé en Ukraine, soit parce que Vladimir Poutine pourrait renchérir le prix du blé. Et il faut savoir que l'Ukraine contribue à hauteur de 12% des exportations mondiales de blé, notamment vers l'Égypte, dont on connaît là encore la faiblesse du pouvoir d'achat. Et donc, des émeutes de la faim, comme durant les années 2000, nous disent qu'il s'agit là d'un sujet extrêmement sensible socialement. Alors, il y a également le versant nucléaire entre la France et la Russie. Qu'allons-nous faire de l'uranium généralement envoyé en Sibérie pour y être recyclé afin d'être réutilisé dans des centrales russes et françaises grâce à des contrats signés entre Areva, EDF et l'entreprise publique russe Rosatom? Enfin, je m'arrêterai sur l'autre instrument de sanctions aux conséquences potentiellement majeures, couper l'accès des Russes au réseau interbancaire SWIFT. Alors, tout d'abord, en deux mots, de quoi s'agit-il? SWIFT, c'est une société coopérative belge qui gère l'essentiel des ordres de paiement des transactions internationales. C'est un réseau qui permet d'automatiser et de sécuriser l'écriture et l'envoi d'ordres de paiement entre les banques du monde entier. Un exemple. Imaginons une entreprise française Toto qui achète 1000 dollars de circuits intégrés à une entreprise chinoise Xiping. Eh bien, la banque française débite le compte de Toto, puis envoie un message à SWIFT, un message par SWIFT, excusez-moi, à la banque chinoise de Xiping afin de créditer son compte de 1000 dollars en lui garantissant le paiement de Toto. On est donc sur une sorte d'assurance.
Mais alors, quelles seraient les conséquences d'une déconnexion de la Russie de ce fameux réseau SWIFT?
Eh bien, cela va ralentir fortement les transactions entre les banques russes et le reste du monde, ce qui risque effectivement d'avoir un effet dévastateur pour l'économie russe. Mais là encore, ces sanctions auront certes un impact sur l'économie russe, mais aussi sur l'économie européenne et notamment la France. Pourquoi? Parce que la France est le deuxième investisseur étranger et le premier employeur étranger en Russie, avec 160 000 salariés. Des groupes comme Lactalis, Danone, Auchan, Decathlon, ainsi que nos fleurons bancaires, Crédit Agricole, Société Générale, y sont présents. Et on comprend bien que de bloquer le réseau SWIFT va empêcher les paiements de l'Europe vers la Russie, mais également les paiements de la Russie vers l'Europe. Et ça, c'est sans compter que la Banque de Russie développe, ceci dit depuis 2014, elle a été aguerrie, son propre système et que des accords sont en cours de discussion pour intégrer le réseau chinois. Donc finalement, cette bombe nucléaire dont parlait notre ministre de l'économie n'est peut-être pas aussi nucléaire qu'il y paraît. Alors, vous voyez, Marie, après la révélation de l'interdépendance des économies durant la crise sanitaire, eh bien, la crise russe nous dit exactement la même chose. Les sanctions envers la Russie entraîneront obligatoirement des représailles qui ne seront pas forcément confortables pour nous en retour.
Est-ce qu'on peut espérer au moins que ces mesures soient efficaces?
Eh bien, si on s'en réfère à l'histoire, l'asphyxie des économies ennemies a rarement porté ses fruits. Les maîtres de Cuba, d'Iran ou de la Corée du Nord sont toujours assis sur leur trône. En revanche, Ce qui est certain, c'est que les peuples de ces pays mis sous embargo sont les premiers à souffrir de cette mesure. Les Russes et les Ukrainiens, qui au final n'ont rien demandé à personne, seront comme d'habitude dans ces cas-là les premiers touchés quand ils ne seront pas même carrément coulés.